Bienvenidos a este informativo de Radio France.
Accent du monde. Philippe Le Caplain.
Bonsoir et bienvenue dans Accent du Monde, l'actualité vue par les rédactions en langues étrangères de RFI. Ce soir, c'est avec Chi Phuong Nguyen de la rédaction vietnamienne. À propos du retour au pays du sceau d'or de la dynastie Nguyen. Pour la rédaction en cambodgien, Pizemam. Au sujet de la venue en France du roi du Cambodge pour assister à l'UNESCO à la 4e conférence intergouvernementale pour la préservation du site historique d'Angkor. Et puis Asbel Lopez de la rédaction en espagnol.
Hola.
Pour nous parler du second tour de l'élection présidentielle en Argentine qui aura lieu après-demain. Avant cela, ce qui fait la une de l'actualité en France, c'est l'augmentation du nombre d'actes antisémites depuis les attaques du Hamas sur le sol israélien le 7 octobre, qui ont provoqué la guerre donc, dans la bande de Gaza. La moitié de ces agissements sont des tags, des inscriptions, des affiches, des banderoles avec des slogans antisémites. Les menaces concernent 22% des cas et l'apologie du terrorisme 10% des cas. Pizemam, au final, le gouvernement a fait les comptes.
Oui, Philippe, selon Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, plus de 1500 actes ou propos antisémites ont été recensés en France depuis le début de la guerre déclenchée par les massacres du Hamas en Israël le 7 octobre. Au moins 330 enquêtes ont été ouvertes pour actes antisémites et apologie du terrorisme depuis le 7 octobre. La dernière en date, il s'agit des actes de dégradation de 10 stèles juives dans le cimetière militaire allemand à Moulins-sous-Touvent, dans le département de l'Oise, mercredi dernier. Lors d'une conférence de presse en Suisse, le président Macron a dit condamner avec la plus grande force ces actes antisémites et appelle son engagement personnel à lutter de manière implacable et sans relâche contre toutes les formes d'antisémitisme.
Que pense l'opinion publique en France ? Alors, que pensent les Français finalement de tout cela ? Ils ont été sondés ?
Alors, selon un sondage de l'IFOP, 82% des Français expriment leur inquiétude pour les Français juifs. L'attaque terroriste du Hamas le 7 octobre a réactivé en France le souvenir terrible des attentats en 2015 et 2016. Le massacre du Hamas à la rave partie du désert, Philippe, c'est comme le Bataclan à ciel ouvert. Selon le sondage, 72% des Français questionnés pensent qu'un attentat de même nature pourrait se produire en France. Dimanche dernier, la France a organisé la marche contre l'antisémitisme. Environ 105 000 personnes à Paris et au total 182 000 dans toute la France ont manifesté. Cela a été un succès, mais la classe politique française est quand même divisée. Les insoumis ont boycotté et sont très isolés. Tandis que Emmanuel Macron, absent dans le cortège, a été très ambigu en faisant le lien entre la lutte contre l'antisémitisme et la lutte contre des actes anti-musulmans. Donc on est désormais, Philippe, dans une logique de concurrence victimaire quand on parle d'antisémitisme.
Et justement, à propos de cette marche organisée dimanche dernier, Asbel Lopez, à la rédaction en espagnol donc de RFI, vous avez envoyé une journaliste couvrir ce rassemblement. Qu'est-ce qu'elle a rapporté dans son micro ?
Mais en écoutant le reportage de notre journaliste, Laetitia Fuentes, on a l'impression que c'est la fin de l'insouciance pour les Juifs de Paris. Entre autres, ceux de Belleville. Sandra, juive, habite près de ce quartier de la capitale. Belleville, immortalisée par des écrivains et chanteurs, n'est pas épargnée par les conséquences ici de la guerre Israël contre Hamas là-bas. Écoutons ce qu'elle a confié à notre confrère.
Yo vivo cerca de un barrio que se llama Belleville, donde que tiene una historia muy importante de convivencia, de comunidades muy, muy diferentes, y es un placer poder tomarte un buen couscous y después a tomar un pastelito judío, es un encanto, y eso es la riqueza de la sociedad
que
nuestra.
Que vient de dire Sandra.
Et pour elle, Belleville a une très importante histoire de communautés très différentes cohabitant ensemble. Es un placer. C'est un plaisir, insiste à deux reprises Sandra. C'est un vrai plaisir manger un bon couscous et ensuite une pâtisserie juive. C'est même un délice. Pour elle, c'est ça la richesse de la société française. Le conflit au Moyen-Orient est en train de gâcher cette ambiance.
Eh bien oui, Pizemam, assiste-t-on à une sorte d'importation en France de ce conflit au Moyen-Orient ?
Oui, Philippe, il faut reconnaître quand même que l'antisémitisme a toujours existé en France. Mais avec cette vague d'actes antisémites, les Français ont fait un lien très établi par rapport à ce qui s'est passé en Israël et dans la bande de Gaza depuis le 7 octobre. Le sondage de l'IFOP-JDD a démontré que c'est la haine et le rejet d'Israël qui expliquent l'antisémitisme. 82% sont d'accord avec l'idée que ce qui s'est passé en Israël depuis le 7 octobre aura des répercussions en France. Les Juifs sont des cibles en France. Pour un Français sur deux, les Français juifs ont plus de risques d'être victimes d'agressions. Pour une très forte majorité de Français, à savoir 80%, la lutte contre l'antisémitisme n'est pas seulement l'affaire des Juifs, mais celle de tous les Français. Il y a un lien entre l'antisémitisme et l'islamisme en France. Tous les Juifs morts en France ces dernières années ont été victimes de cette idéologie ou de préjugés contre les Juifs.
Ces dernières années, dites-vous. Asbel Lopez, n'est donc pas nouveau ?
En effet, dès qu'il y a de la violence au Moyen-Orient, il y a une explosion de l'antisémitisme en France, rappelle Michel Viviorca. Dans l'interview que nous avons faite au sociologue français, il pointe néanmoins des évolutions inquiétantes de la société française ces dernières années. Je vous propose d'écouter Michel Viviorca.
La société française a beaucoup changé depuis 20 ou 30 ans, qu'il y a aujourd'hui une population qui, par
exemple. Je comprends qu'il dit que la société française a beaucoup changé au cours des 20 dernières années.
Oui, 20 ou 30 dernières années. Il y a dans ce pays, en France, une population qui, pour des raisons diverses, s'identifie à la cause palestinienne en raison de ses propres origines ou de sa propre religion, l'islam. Or, ce n'était pas le cas auparavant. Aujourd'hui, toujours selon Viviorca, il y a en France des gens qui ne sont pas seulement pro-palestiniens en raison de l'islam, mais qui veulent carrément la destruction de l'État d'Israël et qui en même temps sont antisémites. Les accusations d'antisémitisme contre les uns et les autres atteignent aussi des sommets.
Chifoung Nguyen, l'antisémitisme a donc existé de tout temps. Faisons un petit peu d'histoire.
Alors, en effet, oui, Philippe, l'antisémitisme remonte depuis Moyen-Âge, existe toujours et n'est jamais disparu. Et pour ce sujet, notre rédaction en vietnamien a fait un dossier pour remonter l'histoire de cette haine à l'encontre des Juifs en France. Nous avons donc interviewé des historiens, des spécialistes sur la question. Alors, les Juifs ont été accusés d'être les traîtres responsables de la mort de Jésus-Christ. Et même s'il a été contredit par des faits historiques, il existe aussi d'autres accusations absurdes, comme ce sont ceux qui ont empoisonné les puits, causé des maladies, avoir un lien particulier avec l'argent. Ils ont dû porter des signes sur les vêtements pour être différenciés vers les 12e siècle.
Et comment cet antisémitisme a évolué au cours de l'histoire ?
Alors, après la Révolution française, les Juifs ont droit de citoyens et ils ont pu s'intégrer dans la société, occuper bientôt des postes de responsabilité dans la banque ou même travailler dans le gouvernement. Cette période dite « émancipation des Juifs » qui marque une transformation de cet antisémitisme religieux en antisémitisme contemporain, voire moderne. Et là, on voit un antisémitisme social, politique. Et après, c'est la sombre période lorsque la Deuxième Guerre mondiale éclate. Ils ont été réduits à rien jusqu'à aujourd'hui. Il existe toujours un antisémitisme important en France, moins tendanciellement à mesure que les années évoluent, les préjugés reculent. Mais en revanche, il y a plus de manifestations, d'agressivité et de violence. La chercheuse Perrine Simonneau, qu'on avait interviewée, elle a observé qu'en France, il est désormais possible d'exprimer les positions antisémites ouvertement, que ce soit dans le discours politique ou dans la vie quotidienne. Alors qu'après la Deuxième Guerre mondiale, avec le souvenir de la Shoah, l'antisémitisme ne pouvait pas s'exprimer en France de manière ouverte.
Cette question à présent, est-ce qu'il existe un antisémitisme à la française ?
Alors, c'est une question assez délicate. Nous avons interrogé l'historien Emmanuel de Bonneau sur ce sujet. Il a cité une tradition française, dans l'histoire française plutôt. Il y avait un théoricien s'appelait Charles Maurras qui avait voulu...
Charles Maurras.
Maurras, merci. qui avait voulu mettre en place un antisémitisme à la française, c'est-à-dire que les Juifs soient considérés comme une catégorie de citoyens à part, qui n'a pas tous les droits d'un Français, parce qu'un Juif, par essence, serait quelqu'un qui ne peut pas être Français. C'est quelqu'un qui n'a pas de patrie, quelqu'un qui n'a pas de nation, quelqu'un qui est cosmopolite, quoi. Et enfin, il a été condamné à mort. Mais selon l'historien de Bonneau, il n'existe pas une spécificité française car la haine des Juifs qui traversent les frontières s'est propagée à l'échelle mondiale et notamment grâce aux réseaux sociaux.
Asbel Lopez, d'un point de vue plus politique en France, cette semaine, la députée écologiste Delphine Batteau a dénoncé la fuite en avant de Jean-Luc Mélenchon dans un antisémitisme de plus en plus assumé, je la cite. Michel Viviorca, dont vous parliez tout à l'heure, a-t-il un avis sur cette question ?
Il refuse d'accuser Mélenchon d'antisémitisme. C'est quelque chose qu'il ne va jamais dire, nous a-t-il confié. Il explique les prises de position polémiques de l'insoumis pour des raisons plutôt de calcul politique.
De mi punto de vista, c'est une position muy estratégica. Mélenchon quiere ser candidato pour la próxima elecciones presidenciales.
Quelle est son analyse?
Mélenchon. Donc c'est surtout une position très stratégique de la part de Mélenchon. Il veut être candidat à la prochaine élection présidentielle. Viviorca pense que Mélenchon est un stratège, un animal politique. Il pense que parler au nom des victimes d'Israël, de l'armée israélienne, est plus bénéfique pour lui que de parler au nom des victimes en Israël, les civils israéliens. Bénéfique d'un point de vue électoral, bien sûr. Quand il parle ainsi, il s'adresse à son électorat, c'est-à-dire aux migrants, aux musulmans, aux arabes, selon le sociologue. C'est du pur calcul électoraliste. Dans ce sens, le leader de la gauche radicale ne fait que suivre lui aussi les évolutions de la société française. Nous verrons si cela lui réussisse dans les urnes.
Asbel Lopez, voilà ce qu'on pouvait dire donc sur cette question dans Accent du Monde ce soir. Vous écoutez Radio France Internationale.
20 часов в Париже,
20
Accent du Monde. Philippe Le Caplain.
Les Argentins élisent leur président ce dimanche. Ce sera à suivre sur les antennes de RFI, particulièrement sur celle de la rédaction en espagnol. Asbel Lopez, est-ce qu'il y a un favori entre le candidat à la présidence du parti au pouvoir, Sergio Massa, et l'ultralibéral qu'est Javier Milei?
La course pour la présidence est serrée, Philippe. Dans les sondages, les deux candidats sont codo a codo, au coude à coude. Personne ne s'aventure à prédire sérieusement qui va remplacer Alberto Fernández. En août dernier, personne n'a prévu le résultat des primaires obligatoires, las PASO. L'outsider Milei est arrivé en premier. Grande surprise. Et il y a un mois, personne n'a prévu le résultat du premier tour. Massa a gagné 15 points et a pris la première place. Grande surprise aussi. Ne prenons pas de risques donc, c'est ambiance. Tout est possible. Nous saurons le nom du nouveau locataire de Casa Rosada après les scrutins de ce dimanche.
Alors ce Sergio Massa, il a gagné 15 points entre les primaires et le premier tour. C'est donc une remontada spectaculaire. Comment est-ce qu'il a pu réussir ce tour de force? Alors il faut savoir qu'il est ministre de l'économie d'un pays avec une inflation de 143%. Des millions d'électeurs peuvent se douter qu'il a quand même une part de responsabilité dans cette situation, non?
Oui, et d'ailleurs cela fait 15 mois que Massa est aux commandes de l'économie dans ce pays. Les parents achètent des couches, 1200 pesos argentinos, une semaine, 2500 la semaine d'après. Et ce n'est pas fini. Une économiste dit s'attendre à une inflation proche de 190% d'ici à la fin de l'année. Le troc s'active. Dans de nombreux pays, un tel bilan pour un ministre d'économie serait synonyme d'impopularité et jamais d'accès au pouvoir. Nos correspondants, Natalio Cosoy et Théo Conscience, mais aussi notre envoyé spécial, Alejo Chapire, ont interviewé des électeurs très critiques vis-à-vis de Sergio Massa.
Pero no entiendo nuestro pueblo. Hay mucha inseguridad, mucha pobreza y seguimos votando algo que nos está castigando. No entiendo.
Si este gobierno sigue estando muchos años más, nosotros no vamos a avanzar.
¿Qué pensa entonces del candidato a la presidencia del partido al poder?
Alors, je ne comprends pas. Il y a beaucoup d'insécurité, beaucoup de pauvreté, et pourtant nous continuons à voter pour le parti au pouvoir. Nous votons pour ceux qui nous punissent. Je ne comprends pas. Si le gouvernement actuel continue, nous, Argentins, n'irons jamais de l'avant. Ce gouvernement n'a pas fonctionné, nous nous sommes trompés. J'espère que le nouveau gouvernement fera mieux. Mais revenons à votre question sur Massa, Philippe. Comment a-t-il fait pour se hisser dans la première place au premier tour ? D'un côté, il a ouvert le porte-monnaie de l'État. Il a multiplié les mesures sociales pour amortir l'inflation, entre autres subventions, exceptions d'impôts, bonus. Une part importante de l'électorat s'est bénéficiée de ces largesses. Il est possible, par contre, que ces mesures aient un grave coût budgétaire à court terme. Mais Massa en profite surtout de l'image d'extrémiste de son rival, Javier Milei.
Alors justement, qui est Javier Milei?
Il est l'homme à la tronçonneuse. En effet, il s'est montré avec une tronçonneuse, symbole des réductions qu'il promet de faire dans la dépense publique. Voici ce que disent des électeurs argentins sur Milei.
Porque no comparto las medidas que quiere impulsar Milei por un lado, la dolarización, la eliminación de un montón de sectores del Estado que a mi criterio son estratégicos.
¿Por qué Massa? Por los derechos de mis hijos. Tiene experiencia como intendente, experiencia me parece
Alors, que
es importante.
De Massa?
Alors, je ne suis pas d'accord avec les mesures que Milei veut promouvoir, entre autres la dollarisation, l'élimination de nombreux secteurs d'État qui sont stratégiques. Pourquoi vais-je voter pour Massa? Se demande une autre électrice. Pour les droits de mes enfants, il a de l'expérience en tant que maire, ce qui est important. Il est également jeune, ce qui est une bonne chose. Ce que propose Milei est insensé, dit une autre. Cela va mettre en péril beaucoup de choses que nous avons déjà. Et pour finir, j'ai peur des changements brusques que Milei veut imposer. L'histoire de la tronçonneuse. Je suis d'accord avec lui sur beaucoup de choses, mais je suis une personne responsable, un adulte.
En d'autres termes, voter Milei, c'est pour beaucoup une sorte de saut dans l'inconnu?
En effet. Et d'ailleurs, avant le premier tour, gagné par Massa, je vous le rappelle, le discours extrémiste de Milei est devenu une sorte d'épouvantail pour nombreux d'Argentins. Nous avons entendu plusieurs déclarations chocs prononcées par lui et son entourage. Voici ce que nous disait à ce propos le journaliste Marcelo Ripari de notre radio partenaire Radio Nacional de Cuyo à Mendoza, Provence de l'Argentine.
Habría que sumar lo de Lilia Lamoine, ¿no? Esta cuestión, esta idea de proyecto de ley para que los varones renuncien a la paternidad.
Aidez-nous à comprendre ce que dit notre confrère.
Il rappelle un des points les plus controversés évoqués par des proches de Milei. Une conseillère du candidat a proposé une loi pour que les hommes renoncent à la paternité s'ils ne veulent pas reconnaître leurs enfants. Ce journaliste argentin explique que dans une Argentine où le féminisme est de plus en plus fort, cette déclaration est perçue comme une attaque à des acquis sociaux et culturels. Bien évidemment, ce discours a fini par affoler beaucoup d'électeurs, en particulier d'électrices.
Et quelles sont les réactions du côté de ses adversaires maintenant?
La candidate de la gauche radicale, Miriam Bregman, estime que le phénomène Milei est une réaction patriarcale. Massa lui-même se tarde d'être devenu le candidat des femmes. 45% des femmes ont voté pour nous, a dit le candidat du pouvoir après sa victoire au premier tour. Cela fait beaucoup de femmes, sauf une, Patricia Bullrich. Elle est la candidate de la droite, arrivée en troisième place, qui s'est ralliée à la candidature de Milei. Bullrich et l'ex-président de droite, Mauricio Macri, soutiennent Milei. On verra cependant si leurs sympathisants vont suivre leurs consignes de vote. Milei n'a donc pas dit son dernier mot. Il est toujours dans la course, en plus, avec une image plus policée, il a modéré son discours entre les deux tours. Massa ou Milei, ces élections ne sont pas faciles pour les Argentins. Pour les partisans de Milei, le bilan économique de Massa est déjà catastrophique. Pour les partisans de Massa, la situation économique serait encore pire si Milei arrivait au pouvoir. C'est peu de dire que c'est une élection entre la peste et le choléra.
Et bien on verra bien, Isabel Lopez. Scrutin donc après-demain, les résultats dans la foulée, à suivre bien sûr sur RFI. Avec la rédaction cambodgienne, venons-en à cette visite en France du roi du Cambodge, Norodom Sihamoni Pisemam. Cette visite royale se déroule dans un contexte bien particulier.
Alors Philippe, le roi du Cambodge, Norodom Sihamoni, est actuellement en France pour un voyage officiel. Il a été reçu par le président Macron au palais de l'Élysée lundi dernier. Selon l'Élysée, cette rencontre a permis d'approfondir la relation privilégiée entre les deux pays, héritée à la fois d'une histoire commune de la francophonie et du rôle joué par la France en faveur du développement du Cambodge suite aux accords de paix à Paris en 1991. Les deux chefs d'État ont aussi discuté sur la restauration du patrimoine culturel cambodgien. La France, comme vous savez, est particulièrement active dans ce domaine, étant co-président du Comité international de coordination pour la sauvegarde et le développement du site historique d'Angkor. Par ailleurs, le mercredi dernier, Sa Majesté le roi du Cambodge était invité par l'UNESCO pour présider la 4e conférence intergouvernementale sur la préservation et le développement du site d'Angkor. Le projet piloté par l'UNESCO avec la participation financière de la France et le Japon année il y a 30 ans et a connu un tel succès que l'UNESCO a décidé de prolonger encore 10 ans. Ce succès est présenté par l'UNESCO comme un exemple à suivre pour les autres projets de préservation de sites historiques et culturels en péril dans le monde.
Et puis il faut savoir qu'à l'occasion de cette conférence, il y a eu un rapport d'Amnesty International qui a fait polémique sur la gestion du site d'Angkor justement.
Oui, en effet, Philippe, Amnesty International a publié mardi dernier un rapport accablant dénonçant la violation très grave des droits humains de la part des autorités cambodgiennes. Il s'agit d'un projet décidé en 2022 par le gouvernement cambodgien consistant à déloger plus de 10 000 familles du vaste site d'Angkor, classé patrimoine mondial de l'UNESCO. Nobody wants to leave their home, en français, personne ne veut quitter sa maison, c'est le titre de ce rapport. L'ONG a souligné que les familles, souvent très pauvres, ont été menacées et violemment expulsées vers des nouveaux sites très loin de sources de revenus, sans infrastructures nécessaires, notamment eau, électricité, école ou encore hôpital, et sans dédommagement adéquat.
Et alors, que répond le gouvernement cambodgien à ces accusations?
Alors, mercredi dernier, le 15 novembre, en marge de la conférence à l'UNESCO, ma collègue Bo Pha Ching a pu interviewer M. Hong Pov, le directeur général de l'autorité APSARA, qui est en charge de sites d'Angkor et aussi de ce projet de logements. Écoutons-le.
Aidez-nous à comprendre, Pizemam.
Alors, il a affirmé qu'il s'agit d'un programme de relogement sur la base volontaire. Le gouvernement n'expulse personne. Il affirme aussi que le nouveau site Runtaek, vers lequel les familles vont être transférées, le gouvernement a construit des infrastructures nécessaires. Le gouvernement cambodgien ne laisse pas tomber son peuple. Mais en tout cas, Philippe, ce n'est pas ce que relate le rapport de l'Amnesty International. L'ONG a accusé qu'au nom de la préservation du patrimoine, les autorités cambodgiennes et l'UNESCO ont préféré chasser la population locale qui, ayant toujours vécu dans le site et qui fait même partie intégrante de ce site historique vivante. On parle de 40 000 personnes chassées. Philippe.
Alors, sur quoi le gouvernement s'appuie pour justifier ce programme de relogement?
Alors, toujours selon M. Hong Pov, le directeur général de l'autorité d'Apsara, la libération de terrain dans le site d'Angkor est très importante dans le processus de recherche archéologique. Écoutons-le encore.
Quelles sont ces explications?
Alors, au micro de AFI, le directeur de l'autorité d'Apsara a affirmé que les fouilles ont permis de découvrir plusieurs vestiges et objets d'art dans le site. Dans le sol, sous les villages occupés, il devrait y avoir plein d'autres vestiges historiques encore. Il a également insisté que le fait que ces habitations, souvent illégales, sont une source de dégradation du site d'Angkor. Cette image de bidonville dans le plus grand site de joyaux patrimoine touristique du pays n'est plus acceptable. C'est une vision déshumanisée, Philippe, du site que Amnesty International a dénoncée. Dans son rapport, l'ONG a aussi pointé du doigt à l'UNESCO d'avoir laissé faire, voire complice. Une accusation que l'UNESCO a rejetée. Interviewé par ma collègue Bo Pha Ching, M. Muni Bushinaki, un des experts ad hoc de l'UNESCO, nous a affirmé que l'UNESCO n'a pas du tout encouragé ce projet de délogement. Il a assuré que l'UNESCO va suivre de près ce projet pour que le droit humain ne soit abusé.
Pizemam sur Angkor, non loin de Siem Reap, à voir absolument au petit matin quand le soleil apparaît derrière les temples. Après un an de négociations, le sceau impérial en or de la dynastie Nguyen, une antiquité précieuse de la dernière dynastie féodale du Vietnam, rentre au pays. Le sceau d'or avait été mis en vente aux enchères par la maison Million à Paris le 19 octobre. Il a été estimé entre 2 et 3 millions d'euros. Deux semaines après cette annonce, le Vietnam a réussi à négocier avec la maison d'enchères pour reporter la vente avant de l'annuler. Alors, Chi Phuong Nguyen de la rédaction vietnamien, vous avez suivi de près cette affaire. Expliquez-nous le processus que je viens de résumer.
Alors, nous avons appris que l'ambassade du Vietnam en France et l'ambassade de France au Vietnam ont facilité le contact, la mise en relation entre le gouvernement vietnamien et la maison de vente aux enchères française Mion pour annuler la vente en public. La presse vietnamienne a rapporté qu'effectivement, un billionnaire vietnamien qui s'appelle Nguyen Thế Hồng a signé un accord de vente avec la maison Mion à 6 millions d'euros au début de cette année. Donc ce billionnaire, qui est aussi un collectionneur d'art sous l'égide du gouvernement vietnamien, a payé tous les frais logistiques pour les négociations et même son rapatriement et toutes les paperasses, etc. Il s'agit donc de la première coopération entre en particulier de l'État vietnamien pour rapatrier les trésors au pays.
Qu'est-ce qu'il y a de spécial, ce sceau impérial en or? Comment est-ce qu'il est arrivé en France aussi?
Tout à fait, Philippe. Alors, ce sceau impérial en or a été nommé comme trésor de l'empereur. Il a été fabriqué sous le règne de Minh Mạng de la dynastie Nguyễn. Et plus tard, il est devenu un symbole de la transfert de pouvoir. Au micro de notre rédaction, l'historien Zhang Chongkuo considère que ce sceau impérial est considéré comme une preuve historique associée à la dernière dynastie féodale du Vietnam qui a existé pendant plus d'un siècle, de 1802 jusqu'à 1945. Je vous invite à l'écouter.
Được biết rằng là chiếc ấn này là có thể đại diện được cho cái triều đại phong kiến Việt Nam cuối cùng là triều Nguyễn. Mà được tự hoàng đế Bảo Đại đã giao lại cho chính phủ Việt Nam chủ Cộng hòa.
Quel est son rappel historique?
Je résume donc, il explique que ce sceau impérial en or a été remis par le dernier empereur Bảo Đại au gouvernement de la République démocratique du Vietnam le 30 décembre 1945 et puis il est disparu quand les Français ont repris le contrôle en 1946. Les dirigeants du gouvernement vietnamien à l'époque pensent que cette guerre serait de courte durée, donc ils l'avaient enterré dans la périphérie de la ville impériale Hue, et bien finalement, ce n'était pas le cas. Le sceau a été découvert plus tard par les Français à Hanoï et la France l'a remis à Bảo Đại, le dernier empereur. Mais son règne a été renversé à nouveau en 1955 et le sceau est parti en exil avec lui en France. Donc quand il est décédé en 1977, sa femme à l'époque s'appelle Monique Baudot, hérite donc son héritage jusqu'à 2021 quand elle est morte. Et puis l'héritage de Bảo Đại est partagé dans sa famille.
La restitution des biens étrangers est plus largement un sujet sensible, hein, avec une pression qui s'est accentuée pour que les musées occidentaux rendent des œuvres obtenues en période coloniale, hein, les rendent à leur pays d'origine. La France a restitué au Bénin 26 œuvres des trésors conservés au musée parisien du Quai Branly en 2021. C'était un sabre au Sénégal en 2019, une couronne à Madagascar en 2020. Et alors là, le sceau impérial en or ne fait pas partie de cette initiative, de cela.
Tout à fait, Philippe, parce que ce sceau faisait partie des biens personnels en France depuis longtemps et personne n'avait contesté. Donc la voie diplomatique ne fait que faciliter les échanges. Et ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est que pour la première fois, un tel objet a été vendu à un particulier à une somme énorme. Et puis les responsables vietnamiens ont participé à ce processus qui est très rare. Effectivement, ce transfert a permis d'ouvrir une voie de coopération entre le gouvernement et les collectionneurs, les particuliers vietnamiens au Vietnam, pour rapatrier d'autres antiquités précieuses vietnamiennes depuis l'étranger. Et donc, Zhang Chongkuo, l'historien, nous donne plus de précisions. Écoutez-le.
Aidez-nous à comprendre.
Alors, il explique qu'au Vietnam, la loi de patrimoine mise en place en 2001 a permis aux particuliers de posséder les antiquités, des trésors d'antiquités nationales, mais il n'existe pas un mécanisme concret pour une coopération entre l'État et les particuliers. Il est donc prévu que l'Assemblée nationale du Vietnam va modifier la loi l'année prochaine et pour pouvoir, je cite, mobiliser les ressources des particuliers, du peuple, pour préserver les patrimoines culturels. Et selon lui, il faut non seulement acter une loi, mais il faudrait aussi une stratégie à long terme, sans parler d'un budget d'État, mais il faudrait d'abord mener des enquêtes pour recenser tous les objets d'art précieux du Vietnam égarés à l'étranger. Et dans quel contexte? On a vu de nombreux pays qui ont restitué des objets aux pays d'origine pour montrer l'amitié, leur engagement dans la coopération culturelle. Donc le Vietnam, pour lui, devrait saisir cette opportunité.
Xi Phuong Nguyen de la rédaction vietnamien de RFI. C'était Accent du Monde, réalisé par Laurent Philippot ce soir, à retrouver bien évidemment sur le site internet de Radio France Internationale.